Donc nous ouvrons la deuxième journée de ce colloque et avec le professeur Helmut Pfeiffer, qui est professeur à la Humboldt Université, qui a un grand empan de littérature française comme objet de recherche et qui travaille plus spécialement en ce moment sur la Renaissance et le XVIIIe siècle. Alors je lui laisse tout de suite la parole.
Merci. Alors j'ai 6 chapitres dont vous verrez arriver la fin. Et j'ai quelques citations allemandes et anglaises que je ne vais pas traduire. Elles ont plutôt la fonction de documentation. Donc, et le signe est quelquefois un peu trop compliqué pour moi. Alors, d'abord, le fatalisme et les masques. Il est plus évident qu'il y ait des affinités entre l'œuvre fictionnelle de Flaubert et l'armature épistémologique du second positivisme, celui de son temps. D'un côté, une théorie du savoir et de la connaissance dans une large part périmée, de l'autre, une écriture dont la modernité ne cesse de provoquer. Cependant, pour les observateurs de l'époque, la situation était différente. Je prends un exemple en même temps exemplaire et exceptionnel. Dans la pensée de Friedrich Nietzsche, l'association de Flaubert et de Taine semble aller quasiment de soi. Les notes des années 4... Qu'est-ce qu'il y a ? Un bisschen laut, hein? Alors je vais faire un effort.
Est-ce qu'il faut fermer les fenêtres? Peut-être fermer une des fenêtres.
Oui, il faut projeter la voix, sinon ça ne passe pas.
Alors je vais faire un essai. Alors, les notes des années 80 citent à plusieurs reprises les noms des deux auteurs, d'abord dans l'opposition à ce qu'on peut appeler un symptôme de la décadence de la culture française, ensuite dans leur caractère représentatif en ce qui concerne des tendances exemplaires de la pensée du XIXe siècle que Nietzsche voit comme quasiment inévitable, mais qu'il croit pouvoir surmonter. Il peut être utile de distinguer 3 aspects. 1. Flaubert et Taine mettent en scène une psychologie de la faiblesse du moi, la substitution d'un concept de la volonté par celui du désir. Il va de soi que, dans la perspective du Willen zur Macht, il s'agit pour Nietzsche d'une psychologie fausse mais symptomatique. Die Psychologie dieser Herren Flaubert ist in Summa falsch. Donc, sie sehen immer nur die Außenwelt wirken und das Ego geformt ganz wie Taine. 2. Flaubert et Taine préconisent une attitude du désintéressement. Taine dans le domaine de la connaissance, die objektiven wie Taine. Flaubert dans le domaine de l'art, die ideale Schönheit, an welche Flaubert glaubt. L'observateur et le créateur ne sont donc, pour ainsi dire, pas impliqués dans le dynamisme de leur objet. 3. Ce refus se comprend si l'on réussit à identifier le pessimisme, voire le fatalisme qui caractérise les deux auteurs. Taine, un noch in seiner Verzweiflung tapferer Mensch, et Flaubert, on peut constater un instinctif pessimismus. Et dans les deux cas, le pessimisme est lié avec une attitude scientifique objectiviste, pour ainsi dire, doublée d'un jeu de masques qui constitue le complément indispensable de ce fatalisme. Pour résumer, Flaubert et Taine représentent le pôle le plus avancé, le plus significatif de l'intellectualité française comme Sitz der geistigsten und raffiniertesten Kultur Europas. Malheureusement, dans l'intérêt de l'avenir, il ne s'agit que d'une impasse. 2. Hypertrophie, l'halluciné et l'artiste. Vers la fin de 1866, Flaubert écrit une lettre à Taine dans laquelle il lui parle du voyage en Italie que ce dernier vient de faire paraître. Cette lettre, assez longue et louangeuse dans l'ensemble, surtout par rapport à la description de Venise, articule par contre des réserves à propos des théories esthétiques de l'auteur. Citation. Je vous sais gré d'exalter l'individu si rabaissé de nos jours par la démocrasserie, mais il y a quelque chose au-dessus de lui. C'est l'idée qu'il se fait de l'ensemble des choses et de la manière de l'exprimer. Il n'est pas sûr qu'une discussion menée selon les pôles de cette opposition puisse sortir facilement des ornières de la théorie des arts de la deuxième moitié du XIXe siècle. Heureusement, la réponse de Taine va dans un sens différent, et je cite « Je fais comme tous ceux qui ont un vice, je m'enfonce dans le mien, j'ai 150 pages d'une théorie de l'intelligence ». Le livre, publié finalement en deux volumes en 1870, un an après l'éducation sentimentale, veut bien être une synthèse des travaux français, anglais et allemands en matière de physiologie, philosophie de la connaissance, psychologie, même psychiatrie. Taine cite abondamment les autorités comme Hermann Helmholtz, Jean Stuart Mill et les autres. Mais l'intérêt pour la catégorie des cas spéciaux, qui évidemment englobe les artistes et les écrivains, le pousse à poser une question personnelle à Flaubert. En fait, il s'agit, comme vous savez, de quatre questions qui, dans l'ensemble, ne portent pas vraiment sur la question de la créativité comme telle, mais plutôt sur le rapport de l'imagination et de la sensation dans le fonctionnement psychique du travail de l'écrivain. L'écrivain est un cas spécial, un hypertrophié, comme dit Taine, dont l'existence fait voir les fondements problématiques de la vie quotidienne, de ses pratiques et de ses convictions. Pour Taine, c'est la contingence fondamentale des certitudes de la perception qui constitue le début de toute recherche sur l'intelligence, et donc le caractère paradigmatique des phénomènes où les distinctions établies de la perception et de l'imagination sont ou semblent abolies. Cela implique bien que, pour l'auteur de l'intelligence, l'hypertrophie, la spécialité psychologique de l'auteur, ne se trouve pas dans le rapport à l'écriture, mais plutôt dans le caractère exceptionnel des mécanismes de l'imagination. L'intérêt de Taine porte exclusivement sur la question de l'intensité des images psychiques, nullement sur le rapport de l'imaginaire et de l'écriture. Pour le dire en des termes plus modernes, c'est de la continuité autopoétique de la vie psychique dont il est question, et nullement de la coupe longue du psychique et du langage. Et dans ce dynamisme intérieur, c'est la distinction fragile de la perception, ou plutôt de la sensation et de l'image, qui est au centre du questionnement. Je cite une question. « Y a-t-il des moments, demande-t-il à Flaubert, où l'imagination intensive puisse être confondue avec l'objet réel? L'oubli des sensations articulées est-il parfois assez grand pour cela, etc. etc. ?» La réponse de Flaubert à ce questionnaire est significative sous trois aspects, peut-être même plus, mais je vais citer trois. D'abord, il répond d'une manière catégorique à propos de la confusion possible de l'image et de l'objet réel. L'image est pour moi aussi vraie que la réalité objective des choses. Quelle est la signification de cette vérité de l'image? Est-ce qu'il s'agit d'une illusion dans le sens que l'auteur la confond avec un objet de la perception? Cela n'est peut-être pas exclu, mais l'explication va dans un autre sens. Il n'y aurait, citation, au bout de très peu de temps, plus de distinction entre ce que la réalité m'a fourni et les embellissements ou modifications que je lui ai données. C'est-à-dire, Flaubert transforme la question. Il ne s'agit plus dans sa réponse de la confusion de l'image et de l'objet, mais d'un objet nouveau qu'on pourrait appeler fusionnel. Deuxième point, encore plus explicite. Pour Flaubert, il semble y avoir un va-et-vient entre la conscience imageante et l'objet imaginaire. L'auteur, d'un côté, se voit poursuivi par ses créatures imaginaires, mais il continue aussi à les faire vivre, il entre dans leur peau. Il est celui qui leur donne une réalité imaginaire, mais il peut aussi être le repoussoir de leur vie jusque dans des sensations somatiques. Citation. Quand j'écrivais l'empoisonnement de Madame Bovary, j'avais si bien le goût de l'arsenic dans la bouche, j'étais si bien empoisonné moi-même que je me suis donné deux indigestions coup sur coup, deux indigestions réelles, car j'ai vomi tout mon dîner. On connaît bien ce passage, c'est aussi celui que Taine va citer dans De l'intelligence. Évidemment, la description flaubertienne est devenue un lieu classique du pouvoir hallucinatoire de l'imaginaire, de sa résonance somatique. Mais il ne faut pas oublier ce que Flaubert ajoute. Il y a, dit-il, des choses qu'il n'écrit pas, bien qu'il les voie dans l'imagination. Pour lui, par exemple, comme l'on sait, Homais est marqué de petites véroles. Le lecteur du roman ne sait rien de ce détail. Dans le travail de l'écrivain comme mise en scène, il y aurait donc toujours un jeu de la sélectivité. Troisième point. Si l'on peut dire que l'intuition artistique ressemble en effet aux hallucinations, c'est un caractère de fugacité qu'on veut souligner. La vitesse et le caractère transitoire ne sont, selon Flaubert, qu'un des côtés de l'image artistique. Plus important est son côté évolutif, le fait que l'image se fait lentement, je cite, pièce à pièce, comme les diverses parties d'un décor que l'on pose. L'image n'est donc pas une pure passivité qui enchaîne la conscience, elle est le résultat d'une tension, le chaînon essentiel dans un processus qui matérialise une volonté créatrice. Chapitre 3, les quais, le philosophe et le jeune homme. De l'intelligence se présente par rapport au témoignage utilisé comme un répertoire diversifié de, je cite, cas anormaux, empruntés également aux aliénistes et aux physiologistes. Discuter des cas anormaux, un choix méthodologique qui s'oppose à la spéculation abstraite et vaine des philosophes. La maxime méthodologique qui dirige ce choix est d'une simplicité élémentaire. Je cite, « Plus un fait est bizarre, plus il est instructif. » Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le quotidien de l'expérience individuelle. Il est plein de surprises et de crises. Évidemment, il faut choisir, et le meilleur sera peut-être de favoriser une certaine « Unheimlichkeit des Heimlichen », l'insolite du familier. Ce qui frappe le lecteur quand on ouvre la partie centrale sur les images, c'est que Taine présente des expériences de lieux qui suggèrent une certaine topique, une circulation littéraire philosophique des lieux. Les images présentées et analysées se réfèrent à deux lieux qui correspondent assez exactement à deux lieux éminents de l'éducation sentimentale. Taine parle d'abord d'une promenade le long du quai qui longe l'Arsenal, c'est-à-dire un lieu parisien qui est le vis-à-vis rive droite du quai Saint-Bernard de la rive gauche où débute l'histoire de Frédéric Moreau. Le deuxième exemple évoque la forêt de Fontainebleau. Si l'on accepte les datations des auteurs, il ne peut y avoir eu d'influence directe des textes. L'éducation sentimentale ne paraît qu'en novembre 1869. De l'intelligence est publiée en 1870, mais la promenade de Taine, dont il est question, a, selon l'auteur, a eu lieu le 24 novembre 1867. Il nous assure qu'il a décrit pendant la journée du 25, donc, selon une lecture possible du roman, plus ou moins au temps du dernier épisode. En tout cas, Taine ne peut pas connaître le roman quand il fait sa promenade, mais Flaubert peut lui avoir parlé du début de ce roman, peut-être aussi d'autres épisodes. L'évocation brève de la forêt de Fontainebleau dans De l'intelligence ne saurait se comparer à l'épisode du roman qui est fondamental. je laisse de côté cet aspect. Mais le cas de la promenade le long du quai est différent. On pourrait même parler d'une exemplarité inversée. Le traité reprend les données du roman pour leur donner une tournure ouvertement conceptuelle. Le départ de Frédéric a lieu, commençait vers 6 heures du matin, la promenade du philosophe vers 5 heures du soir. Dans les deux cas, il s'agit d'un moment de transition. Frédéric se trouve sur le bateau qui se met en mouvement. Pour lui, c'est le paysage qui semble en mouvement. Taine se promène sur les quais et observe les bateaux en mouvement. Le roman met en jeu la duplicité de la focalisation et de la voie narrative. L'argument épistémologique prend pour thème la duplicité de la sensation et de l'image. Le roman présente au début une pléthore d'objets hétérogènes pour les mettre en contraste ironique avec l'homogénéisation de l'imaginaire. Le texte philosophique offre le tableau de certains idiosyncrasies des sensations et des images. L'auteur nous informe par exemple qu'il n'a qu'à un degré ordinaire la mémoire des formes. Et finalement, comme il y a chez Flaubert un certain usage de l'incertitude, qui place le lecteur entre l'instance narrative et la perception du protagoniste, Taine nous offre une description de sa promenade, de ce qu'il a vu le soir, mais il avertit le lecteur que sa description date de la journée suivante, c'est-à-dire qu'elle ne peut être qu'une description des images dont les différences et les affinités avec les sensations constituent le sujet du passage. Je cite, « Il y avait hier en moi des sensations provoquées par le contact présent des choses et par l'ébranlement présent du nerf. En ce moment, il s'élève en moi des impressions analogues. C'est une demi-résurrection de mon expérience. On pourra dire qu'elle est un arrière-goût, un écho, un simulacre, un fantôme, une image de la sensation primitive. » 4. Les apories de la sensation. On a beaucoup discuté la formule de Hans Blumberg dans son essai « Wirklichkeitsbegriff und Möglichkeit des Romans », selon laquelle les possibilités du roman moderne seraient dans un rapport essentiel avec la Realisierung eines in sich einstimmigen Kontexts, la réalisation d'un contexte homogène et consistant comme mode fondamental de l'expérience. D'un côté, le roman du XIXe siècle semble être un paradigme imminent de la structure du contexte homogène. De l'autre, dans une note où Blumberg se réfère à la discussion sur les implications de son essai, il admet que le concept en question peut être élucidé comme le Wirklichkeitsbegriff de la phénoménologie husserlienne, ou plutôt qu'il représente la structure du rapport de la conscience et du réel explicité dans ses descriptions. Ceci semble suggérer que la phénoménologie peut être lue comme le déploiement conceptuel de ce que le roman présuppose déjà au niveau de la modélisation fictionnelle. Je dirais plutôt, par contre, que ce commentaire obscurcit en quelque manière les modalités du rapport que nous entretenons aujourd'hui avec le roman du XIXe siècle, Flaubertien et autres. C'est au début de sa phénoménologie de la perception que Maurice Merleau-Ponty indique les apories conceptuelles qui ont faussé l'analyse de la perception. Je cite, « En commençant l'étude de la perception, nous trouvons dans le langage la notion de sensation qui paraît immédiate et claire. Je sens du rouge, du bleu, du chaud, du froid. On va voir pourtant qu'elle est la plus confuse qui soit et que pour l'avoir admise, les analyses classiques ont manqué le phénomène de la perception. » La critique de Merleau-Ponty vise d'abord l'empirisme, ensuite le positivisme. Ce qu'elle dénonce surtout, c'est le fait que le concept de la sensation, ou dans la terminologie de David Hume que Merleau-Ponty cite aussi, de l'impression, et je cite encore une fois, ne correspond à rien dont nous ayons l'expérience. Que la prétendue évidence du sentir n'est pas fondée sur un témoignage de la conscience, mais sur le préjugé du monde. Ce concept préjugé du monde répète le dictum husserlien selon lequel toute la psychologie du passé se retrouve, je cite, « auf dem Boden der naiven Welthabe ». Nous sommes au milieu du problème. Pour le positivisme, toute analyse de la perception conduit à l'analyse de la sensation. Et comme la sensation ne peut être comprise, on va le voir tout à l'heure, en dehors de son rapport à l'image, à l'imaginaire, il n'y a pas de concept de la sensation sans le contrepoint du concept de l'image. La perception, pour le positivisme, n'est ni un concept évident ni fondamental. Elle ne peut donc pas être ce qu'est, d'après la phénoménologie, une intention de notre être total. S'il est vrai, comme le dit William James dans ses Principles of Psychology, que le but de la psychologie positiviste serait toujours « the empirical correlation of the various sorts of thought or feeling with definite conditions of the brain », c'est-à-dire que le rapport de la psychologie et de la physiologie constitue le noyau de la théorie positiviste du savoir, le lieu de la sensation déjà peu clair dans l'empirisme se voit transféré loin de la sphère de la conscience et de l'auto-observation. Avec le schématisme psychophysiologique, la sensation perd tout contact immédiat avec la perception et le monde qu'elle se donne. Dès maintenant, toute description de la sensation comme expérience devient nécessairement illusoire. On comprend que dans le volume 2 de l'intelligence sur les diverses sortes de connaissances, le premier chapitre du mécanisme général de la connaissance porte le titre de l'illusion. Qu'est-ce que la sensation dans l'univers psychophysiologique du positivisme ? C'est le, je cite, « premier événement intérieur connu sans intermédiaire ». La sensation appartient à nous et non à l'objet. Elle n'est pas une propriété de l'objet, mais un événement à l'intérieur. Le sujet devrait être en mesure de prendre conscience de la sensation, comme la physiologie de l'avenir devrait être capable de la localiser dans les centres du cerveau. Mais la réalité que nous rencontrons est tout autre. La sensation observée ne va jamais sans image, il n'y a pas de sensation pure, elle est un événement, je cite, « accompagné d'images associées » qui la situe. Si pour le phénoménologue, l'impression ou la sensation n'existe pas parce qu'elle se doit à une reconstruction tardive, pseudo-scientifique, pour le positivisme, ce fait traduit la contingence de l'expérience perceptive comme telle, dans laquelle la seule certitude, c'est-à-dire la sensation, se voit instantanément enchaînée dans un ensemble d'images. Par exemple, les sensations qu'un sujet éprouve sont toujours localisées, très souvent attribuées aux organes du corps, la main, la langue, etc., c'est-à-dire, comme dira le physiologiste, à l'extrémité du nerf. Cette localisation, cependant, nous apprend-elle, n'est pas une qualité inhérente de la sensation, mais un résultat de l'éducation des sens. C'est une attribution erronée, une projection imaginaire. Nos habitudes de situer la sensation proviennent d'une, je cite, « opération ultérieure engendrée par l'expérience ». Dans beaucoup de cas, comme l'on voit dans les cas fameux des amputés et leurs douleurs fantômes, la sensation nous semble située, dit-elle, en un endroit où très certainement elle n'est pas. Le véritable lieu de la sensation se trouve dans les centres nerveux du cerveau, ou, pour le dire avec Wilhelm Wundt, l'auteur des Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung et des Grundzüge der physiologischen Psychologie, il dit la même chose maintenant, derjenige Akt, der allen Wahrnehmungsprozessen vorausgeht, ist die durch den äußeren Sinneseindruck hervorgerufene Empfindung. Die Empfindung kommt zustande, indem die äußere Bewegung, die den Sinneseindruck macht, durch empfindende Nervenfasern zu zentralen Ganglienzellen sich fortpflanzt. Pour résumer, le positivisme est peut-être la première version autodestructrice de la Erkenntnistheorie. Depuis la première critique kantienne, celle-ci a cherché à s'établir dans un régime transcendantal. Au milieu du XIXe siècle et sous l'impression des progrès étonnants de la science de l'homme, le positivisme cherche à réconcilier théorie de la connaissance et analytique empirique des conditions physiologiques de la connaissance. L'incompatibilité des deux approches est devenue visible vers le tournant du XXe siècle avec le pragmatisme, le vitalisme et surtout la phénoménologie. 5. L'image et l'événement. Une des ambitions majeures du positivisme se réalise comme l'on sait dans la destruction des entités métaphysiques. Si la psychologie veut devenir une science des faits, elle doit reconnaître qu'il faut, je cite Taine, laisser de côté les mots de raison, d'intelligence, de volonté, de pouvoir personnel et même de moi, comme on laisse de côté les mots de force vitale, d'âme végétative, ce sont des métaphores littéraires. La substance n'est qu'une fiction de l'esprit. Qu'il y ait déjà dans le choix du titre de l'intelligence une métaphore littéraire ne semble pas vraiment faire problème pour l'auteur. De l'intelligence est un livre plein de métaphores et d'images. Ça ne fait pas de problème parce qu'on doit voir que si le moi n'est pas une substance, il est peut-être une machine intellectuelle ou un arbre ou une plante. Ce qui importe, c'est qu'à la fin, il n'y a de réel dans cette machine ou cette plante que la file des événements. En tout cas, il n'y a rien d'autre que cette série ou multiplicité, comme vous voulez, d'événements que l'observateur rencontre quand il renonce aux entités métaphysique. Et ce désarmement conceptuel est en même temps une source de désillusion, parce qu'il fait voir la réalité nue de la conscience. Je cite, ces illusions sont nombreuses et invincibles. Il est nécessaire de s'arrêter un instant sur ce concept fondamental de l'événement, parce qu'il constitue la base à partir de laquelle la constitution d'un monde structuré de l'expérience, de l'expérience devient possible. D'abord, l'événement pour Taine n'est pas vraiment une donnée de la conscience, mais plutôt une entité fragile, en partie fictive et imposée par un observateur. Je cite, « C'est seulement pour la commodité de l'étude que nous séparons nos événements les uns des autres. Le moi n'est donc divisé en événements que pour l'observation, et cependant il équivaut à la série de ces événements E.O.T. Je cite, « Il ne serait plus rien. » Ce sont des paradoxes révélateurs. L'événement arrive à la conscience. Sans l'événement, elle ne serait rien. Mais l'événement est une construction, une fiction. On ne saurait la décrire comme une donnée immédiate ou élémentaire, ou comme un acte intentionnel. On ne peut nier que le concept de l'événement n'implique un potentiel de modernisation descriptive. Avec lui, l'ensemble des substances et des facultés fait place à une sérialité. En même temps, il est évident que l'ensemble des concepts et métaphores employés par Taine modèlent une conscience essentiellement passive. L'événement n'est pas une opération de la conscience. Par exemple, dans le sens de la formule établie par Spencer Brown, « draw a distinction ». Il suggère plutôt une forme d'être affecté par la contingence. Il n'y a pas chez Taine ce que William James va appeler dans sa critique du positivisme « the active element in all consciousness ». Ou encore une fois à travers le point de vue phénoménologique, l'événement, cette unité fondamentale du positivisme ne connaît pas l'intentionnalité. Que la vie de conscience, le Bewusstseinsleben, peut et doit être dans les termes emphatiques de die Krise der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, leistendes Leben, c'est une métaphore très belle, leistendes Leben, ob recht oder schlecht, sein Sinn leistendes, cela reste absent et invisible dans ce que Husserl appelle Datenpositivismus. La vie psychique est le lieu de divers types d'événements, les sensations, les images, les perceptions, les illusions et les fictions se suivent sans que leur qualité spécifique soit nécessairement évidente. Cependant, pour l'observateur, une asymétrie s'impose. Ce sont les images qui dominent dans la série. Les sensations dépendent de la contingence de ce qui nous arrive. Si elles sont faibles, elles disparaissent sans laisser de traces. Si elles sont intenses, elles tendent à se répéter dans la forme de l'image. La sensation ne cesse de se transformer en image et l'image se répète en l'absence de toute stimulation des sens. La conscience se présente donc essentiellement comme un polypier d'images. L'illusion n'est jamais loin. C'est dans l'automatisme résurrectionnel des images qu'elle trouve son milieu favorable. Sixième chapitre, très court, j'ai encore quelques minutes.
Ça fait 30 minutes, vous pouvez continuer.
5 minutes.
Oui, d'accord.
Le vrai positivisme. Flaubert n'est pas seulement le destinataire d'un questionnaire positiviste sur le caractère des images chez l'artiste. Il s'intéresse, comme l'on sait, au progrès de la science, de l'homme, comme il écrit dans une lettre. À son avis, le matérialisme et le spiritualisme empêchent encore l'étude impartiale des phénomènes. Il recommande les beaux travaux, comme il dit, de Renan, entre autres. Mais il ne s'agit pas seulement d'études historiques. À plusieurs reprises, il déclare être revenu sur les études psychomédicales pour Salambo. Par exemple, je cite, « Il y a des trésors à découvrir dans tout cela ». Dans la correspondance de Flaubert, la terminologie de la psychologie positiviste revient assez régulièrement. Il écrit par exemple à son ami Ernest Feydeau à propos du roman Daniel pour critiquer le manque d'intensité de certains passages. Et on connaît évidemment l'importance du concept de l'illusion dans sa conception de l'art. Dans une lettre à Louise Collet, il insiste que tous les livres de premier ordre sont criants de vérité et on trouve l'assertion catégorique « la première qualité de l'art et son but est l'illusion ». Quelques années plus tard, Flaubert parle de Madame Bovary comme d'une histoire totalement inventée, qui n'a rien de vrai, mais dont l'illusion, s'il y en a une, vient au contraire de l'impersonnalité de l'œuvre. Vers la fin de sa vie, dans une lettre à Maupassant, il oppose un certain concept de réalisme à la présence de l'illusion. « Avez-vous jamais, écrit-il, cru à l'existence des choses? Est-ce que tout n'est pas une illusion? Il n'y a de vrai que les rapports, c'est-à-dire la façon dont nous percevons les objets. Le propre de l'image, selon Taine, c'est son intensité, son automatisme. Chacun, je cite, connaît la puissance de l'image, surtout quand elle est étrange ou terrible. Je cite encore, des impressions fugitives peuvent surgir de nouveau avec une puissance étrange et une exactitude automatique. Il peut y avoir une, citation, résurrection complète de l'image. On pourrait multiplier les exemples de cette renaissance spontanée de l'image. Pourquoi Ten ne cesse-t-il pas d'évoquer cette présence écrasante de l'image dans le mode de l'illusion parmi l'ensemble des événements de la conscience? Les images sont, c'est l'impression que donne de l'intelligence, l'espèce la plus importante de la conscience, l'espèce dans le sens zoologique. Et il y a entre elles une lutte acharnée pour la vie, ce qui veut dire une lutte pour la présence dans la conscience, pour la puissance souveraine. On assiste donc à une, je cite, « lutte pour vivre entre toutes nos images ». Et dans une note à propos du « Struggle for Life » darwinien, Ten propose le commentaire surprenant, je cite, « Nulle part l'idée d'un grand naturaliste anglais ne s'applique plus exactement qu'en psychologie ». Flaubert lui-même, dans une lettre à Edmond Roger Desgenais, fait l'éloge de Herbert Spencer, qu'il appelle un vrai positiviste. Est-ce qu'on surestime de telles remarques? Je ne sais pas. Il est certainement significatif que ce concept d'un vrai positiviste est associé avec le nom de Herbert Spencer, c'est-à-dire l'auteur dans l'œuvre duquel on trouve l'association la plus étroite de la psychologie positiviste et de la théorie de l'évolution darwinienne. Et c'est peut-être dans l'agonalité des images, de la puissance de l'image et de son exorcisme, de l'illusion et de la contre-illusion, depuis longtemps, on pourrait dire, le sujet implicite d'une certaine rhétorique de l'énargéia, qu'on doit voir une position épistémologique incontournable dès le moment où l'aporie de la sensation provoque le dégènement des images. Merci.
Merci pour cette très belle analyse qui nous introduit au cœur de notre recherche actuelle sur l'image et donc sur cette confrontation entre la théorie de l'image chez Ten et Flaubert. Est-ce que voilà, j'ouvre la discussion. Y a-t-il des questions, des remarques? Pierre-Marc de Biasi.
Oui, merci beaucoup pour l'exploration de la question du positivisme chez Ten et dans ses relations avec les images. C'est la comparaison que vous faites avec la phénoménologie et l'observe et la mentie me pousse quand même à vous poser une question sur le rapprochement possible entre la théorie de Ten et ce qui serait la théorisation flaubertienne de la chose. Parce que, à vrai dire, plusieurs thèses ont démontré la proximité très grande entre la conception flaubertienne de la sensation et les éléments qu'on a montrés de la phénoménologie de la tradition phénoménologique. Donc, je pense qu'il y a quand même une très grande distance entre Ten et Flaubert. J'essaierai de mon côté ce matin ou cet après-midi d'en dégager quelques points. C'est une vraie question. Et d'ailleurs, vous avez mentionné des cas de rapprochement entre Ten et Flaubert, mais il y a beaucoup de cas d'éloignement dans la correspondance où Flaubert prend ses distances d'une manière extrêmement caractérisée. Alors, comment, c'est pas parce que non plus Flaubert a répondu aux questions de Ten, d'ailleurs, qu'il se rapproche, quoi que ce soit, des conclusions que Ten en tire. Il y a un vrai débat, il y a une curiosité manifeste de Flaubert à l'égard des travaux de Ten, une sympathie aussi, mais aussi pas mal de distance. Et je ne sais pas si lorsqu'il défend. Après cette formule, un vrai positivisme, ce qu'il y a d'adhésion, ou au contraire de provocation, ou d'amusement, ou de critique implicite. Vous voyez, les modalisations sont assez compliquées, j'ai l'impression. Je crois d'ailleurs que ça pose la question que j'essaierai tout à l'heure d'articuler. Qu'est-ce que c'est que la théorisation pour Flaubert? Ce n'est pas une chose tout à fait simple à régler. Mais comment vous vous sentez après votre grande recherche sur sur Thaïne, sur ces aspects. Comment vous ressentez à la fois les proximités et les différences entre Claude et Thaïne?
Alors, d'abord, je suis parti du fait qu'il me semble qu'on néglige ce fait très souvent qu'au milieu du 19e siècle, il y a en Europe, partout, en Allemagne, en Angleterre, en France, une recherche physiologique qui domine le discours et qui constitue un champ de référence et de citation aussi très très dense. Par exemple, Thaïne ne cesse de citer John Stuart Mill, il cite tout le temps les Allemands, Helmholtz et les autres. Et évidemment, à lire aujourd'hui ces livres, l'analyse de la Sinneswahrnehmung, même de la perception des sensations, c'est quelque chose de fascinant. Et je crois qu'au milieu du 19e siècle, un auteur qui réfléchit à ces problèmes de poétique, probablement s'il a un intérêt pour le développement des sciences naturelles, ne peut pas échapper à cela. Et je me suis demandé, par exemple, si quand Flaubert parle dans son regard de myope, ce qu'il fait à plusieurs reprises, il ne se réfère pas en quelque sorte à une conception de la perception qui est celle de la sensation. Donc, j'ai l'impression que on n'échappe pas vraiment à ce système, mais de l'autre côté, je ne dirais jamais que cette mise en pratique d'une certaine épistémologie du positivisme, il y a plutôt des aspects de convergence et aussi de divergence, et je crois qu'on peut comprendre certains aspects de l'écriture flaubertienne d'une manière plus pertinente. L'autre aspect qui m'est venu assez tard, c'est l'obsession darwinienne qu'on trouve à partir des années 60, me semble un point assez fort, surtout si on lit Darwin dans une perspective psychologisante, comme le fait Taine. La psychologie ou la conscience est un terrain de lutte, c'est un terrain de lutte d'image. Et là, j'ai l'impression qu'il est assez proche d'une conception que Flaubert, qui n'est pas loin de ce que pense Flaubert, et aussi ce qu'il met en scène dans certains de ses textes.
Et juste une remarque, je pense que c'est Flaubert, il y a une part assez fortement liée dans cet intérêt pour Darwin, pour le positivisme lié à l'évolutionnisme, une part assez fortement liée à la lutte anticléricale et anti-transcendante. C'est son immense savoir sur l'histoire de la religion et sur l'histoire de la transcendance n'exclut pas du tout un certain statut militant dans l'anti-clericalisme à un moment où quelque chose vraiment se construit en France, une séparation forte. Hein. Et là, ça sera confirmé lorsque l'histoire devra à l'Église catholique, notamment après la Commune, une puissance pratiquement militaire sur les consciences. On verra Flaubert se révolter contre l'interdiction des disciplines scientifiques et contre l'interdiction des conférences positives. Ouais, notamment.
Ouais. D'accord.
Barbara et Françoise.
Françoise d'abord.
Françoise d'abord, d'accord.
Donc je vous remercie pour cette analyse tout à fait passionnante et très juste. Juste un point, mais ça c'est pas ma question. Hein. Je ne parle pas encore de phénoménologie parce qu'on est dans une période pré-phénoménologique.
Oui.
Voilà, la phénoménologie va se développer, repousser, etc. postérieurement. Mais on voit bien que quelque chose est en train de se dessiner. Alors, moi, Ma dernière, c'est là en tout cas que baissée, c'est la théologisation qui va intervenir dans la deuxième moitié du 19e siècle. Parce qu'avant, au fond, cette question du passage de la sensation à l'image, elle est envisagée au fond de deux manières très schématiques et très grossières. D'une part, dans la philosophie allemande, dans l'idéalisme allemand, à travers Kant et la question du schématisme, que Victor Cousin va questionner, et qui est une manière de répondre à la question de l'image, texte d'ailleurs de Kant extrêmement difficile pour essayer de comprendre ce que c'est que cette intervention de ce qu'il appelle le schématisme. Et puis l'autre façon, c'est le matérialisme style Condillac. Ouais. Là, ou Kant ou Condillac pour comprendre ce genre de choses. Alors je crois que là, effectivement, et tu l'as très très bien montré, il se passe quelque chose. Mais, et voilà où surgit quand même l'énigme. C'est que si de la sensation peut surgir de l'image, alors le problème qui se pose, c'est comment de l'image peut surgir de la sensation. Comme c'était un des premiers exemples, c'est-à-dire comment on peut être pris de crampes d'estomac, etc., d'indigestion, parce que on a l'image de Madame Bovary en train de mourir empoisonnée à l'arsenic. Et ça, c'est une question fondamentale et passionnante, parce que en médecine, elle touche aussi la question. Finalement, c'est, je ne dis pas que c'est un phénomène hystérique, même si ça en est un, mais ça touche à la question. C'est pour ça que d'ailleurs l'hystérie les a tellement agressés, c'est-à-dire que tu as des effets qui sont par rapport à la cause en discontinuité. Tu vois, tu n'as pas. Et ça paraît quelque chose de tout à fait essentiel. À quoi t'aide ? Et ensuite, d'autres vont s'attacher. Parce que comment rendre compte de ça, justement, dans une perspective qui n'est pas de triple lieu, dans une perspective positiviste ? C'est-à-dire comment rendre compte de cette, entre guillemets, discontinuité ? Alors ça, je crois que c'est tout. Et je pense que Flaubert est effectivement aussi là-dedans.
Oui, oui. Peut-être une petite réponse au milieu de ta question, parce que il me semble que la théorie de la sensation sensational or impression au 18e siècle dans l'empirisme anglais, c'est peut-être une description un peu problématique de la connaissance, mais c'est une conception qui va sans a priori, tandis que l'analyse positiviste ne peut pas aller sans a priori, parce qu'il y a la physiologie qui entre en matière. Et pour le deuxième point, dans la perception, chez Taine ou chez John Stuart Mill, chez Helmholtz et les autres, l'image intervient de deux manières. Tout d'abord, l'image, c'est la répétition de la sensation, c'est la résurrection. Il y a toujours cette métaphore de résurrectionnelle. Et c'est quelque chose, j'ai insisté sur le caractère passif de ces synthèses. Ça arrive sans l'intervention de celui qui perçoit,
de la volonté.
De l'autre côté, l'image intervient nécessairement pour attribuer le lieu de la sensation. Donc il n'y a pas de transformation de sensation en perception sans projection, et cette projection ne va pas sans image. Donc il y a deux lieux de l'image qui sont inévitables dans cette construction et qui contribuent à ce caractère fondamental apophytique de l'analyse.
Barbara, vous voulez intervenir ?
Oui, j'ai trouvé très pertinent cette démonstration d'un discours pour être presque physiologique. Alors, si j'ai bien compris ta thèse, dont je ne suis pas trop sûre, tu as voulu démontrer que ces discours physiologiques sur l'image, très belle cette expression, la Renaissance, enfin la Renaissance spontanée, présente l'image. Enfin, si j'ai bien compris, tu as voulu superposer, ou tu as voulu dire, tu as dit que les discours poétiques de Flaubert, enfin, sur l'illusion, faire clair et vif, l'importance de l'image, tout ça, qu'il faut le comprendre d'une certaine façon. Un peu différemment, c'est-à-dire que la poétique se déplace à travers ce discours physiologique qui intervient. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore une politique autre, différée, enfin, un peu condamnée d'une façon plus purement rhétorique, mais que c'est une rhétorique ou une politique qui justement est informée, si on en est pas, par cette autre pensée physiologique. Est-ce que c'est comme ça?
Oui, c'est un peu. Pardon?
C'est très intéressant et c'est tout à fait pertinent pour notre projet là, sur l'image et tout le verre.
Oui, c'est un hasard pour moi heureux que je vois que toute l'image intéresse tout le colloque, mais il me semble que les analyses des physiologues de la physiologie européenne, il faut dire européenne, c'est un champ de référence européen, transforme en quelque sorte la perception de la perception. Et elle transforme ce champ jusqu'à ce que finalement, tout d'abord, le pragmatisme et ensuite.
Mais elle transforme aussi la politique, c'est-à-dire.
Ça intervient, je ne dirais pas que ça transforme la politique, parce que la politique a son poids, en quelque sorte, propre, qui continue. Mais ça intervient et ça produit un certain. Certaines tensions, en tout cas, entre les
deux. Ça transformera la conception de la conscience si on ira vers Bergson.
Oui, c'est tout à fait. Mais ce qui est important, à mon avis, que vers la fin du siècle, début du XXe, on cesse de citer toutes ces expérimentations physiologiques. Husserl ne cite pratiquement plus et Bergson non plus, tandis que encore chez William James, le livre est plein des pages et des pages de citations de Spencer, de Taine, et il réfute tout le temps ces théories. Donc c'est un champ qui vraiment circule et ça s'arrête vers la fin du siècle.
Jacques-Mess ?
Oui, c'était le prolongement de la question sur le rapport là, c'est-à-dire que ce rapport aux physiologies fondamentales, la question commence vraiment du côté de la politique, c'est-à-dire. En quoi les poétiques de la deviennent-elles de la sensation dans l'écriture, dans le pictural aussi, évidemment. C'est-à-dire que ce rapport à l'image se joue dans des intensités. Poétiques, prosodiques, par exemple. Peut-être que le passage à la prose qui domine, qui est une véritable problématique, de Merval à Robert, à Robert, etc. À la prose qui devient un univers de la autre, de la sensation, est lié à ce tournant. C'est là que je parce que on est-il justement de ce qui serait. Ce n'est plus seulement de la rhétorique qui est en jeu,
c'est
véritablement de la prosodie.
Ouais.
Et ce qui en est en peinture, il est vraiment très important aussi. Du Rondon, par exemple. Du Rondon, au fond, on va vers une sorte de source sensorielle de l'image.
C'est ça.
Et qui rencontre une sorte de figuration du vivant. On a une conjonction épistémo-poétique qui est tout à fait fondamentale, et c'est ça qu'on a. De l'autre aspect, c'était sur la question de la pré-phénoménologie. S'il y a pré-phénoménologie, c'est aussi précisément, alors tu l'as cité, précisément du côté d'une interrogation sur le corps propre, sur le corps dans l'espace, sur la diffusion du corps dans l'espace et de l'espace comme corps. Et là, il y a, je trouve, des moments poétiques qui sont dans ce sens, tout à fait dans ce sens. Qui serait que, par exemple, la dissolution de la perception dans la sensation.
Alors, sur ce dernier point, je suis un peu sceptique. Si l'on peut dire que disons, le discours sur le corps et le corps perceptif chez Flaubert peut être lu comme pré-phénoménologique, je ne suis pas certain. Mais l'autre aspect, me semble, que vous avez dit, que l'aspect ou la théorie de la physiologie entre pas seulement en matière de littérature, mais ailleurs aussi, dans les arts en général, c'est tout à fait pertinent. Mais je dirais aussi que des descriptions dans la physiologie, chez les auteurs de la physiologie, sont elles-mêmes imprégnées d'une certaine littérature. Par exemple, je pense que cette description de sa promenade le long du quai de l'Arsenal chez Taine et aussi l'évocation de la forêt de Fontainebleau avec les effets de lumière et avec cette manière de trouver, de perdre son chemin, en quelque sorte, narrativisation de la sensation qu'on trouve chez quelques auteurs du positivisme, ne va pas sans les textes littéraires, mais sans les auteurs comme Flaubert.
C'est ce que tu disais, c'est qu'il y a une sorte de préjugé du monde, ouais, à travers les images et les textes, etc., qui aussi surdétermine, ouais, la sensation dans les rapports avec les humains.
Une dernière intervention peut-être, Pierre-Marc.
Oui, c'était juste pour aller au renforcer ce que vient de dire Jacques, et donc par exemple, je pense que non, il n'y a pas trop à douter d'une sorte de pré-phénoménologie, en tout cas de construction du corps propre, comme disait Jacques. Comme je disais, plusieurs thèses, notamment une thèse d'un Brésilien, Carlos Braga, soutenu l'année dernière, qui était consacré à une analyse très suivie du travail fait par Flaubert sur cette question de la sensation dans les années de jeunesse, notamment dans le cadre des voyages, est une démonstration, je crois, à peu près définitive de cet aspect-là des choses. C'est très frappant, c'est très étonnant. Bien sûr qu'il faut, relativiser, modaliser tout ce qu'on veut, mais on est beaucoup plus proche de quelque chose comme la définition d'un horizon sensoriel, d'une opposition entre le corps objectif et le corps propre, que proche d'un modèle physique. C'est
bien.